Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince et 15h à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
Merci d'être avec nous sur RFI. Dans un instant, réaction politique aux États-Unis après la décision de la Cour suprême d'étendre l'immunité parlementaire. Donald Trump y voit une victoire et de fait, cela repousse son procès fédéral. Il n'aura pas lieu avant la présidentielle de novembre. Nous parlerons aussi de ces nouvelles violences en Haïti, à Gressier, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Les gangs ont de nouveau attaqué un commissariat. Et puis, avec nos confrères de La Première, on va parler de l'actualité des Outre-mer. Tiziana Maron et de l'ouragan Beryl, cyclone superpuissant de catégorie 5. Il s'éloigne des côtes antillaises, mais il y a causé des dégâts très importants.
Oui, dans le sud de la Martinique, notamment, les pêcheurs ont été surpris par la puissance des vagues. Les détails à suivre, Anne.
À tout à l'heure. Et pour l'heure, on fait le point sur l'actualité internationale. L'essentiel en quelques minutes.
RFI Midi.
Avec vous, Mayelle de Charon, nous sommes à 5 jours du second tour des législatives en France. Un front républicain se constitue tant bien que mal pour faire barrage au Rassemblement national.
C'est la dernière ligne droite pour les partis. Les dossiers de candidature doivent être déposés en préfecture avant 18h. Pour l'instant, plus de 200 candidats arrivés en troisième position se sont désistés. Du côté du RN, plusieurs candidats font encore parler d'eux en raison de leur profil ou de leur passé dans cet entre-deux-tours. Une candidate en Normandie vient de se retirer de la course après la publication d'une photo où elle arbore une casquette de l'époque nazie. Pierrick Bonneau.
Comme à chaque fois, ce sont les réseaux sociaux qui ont trahi la candidate. Une photo de Ludivine Daoudi, prise il y a plusieurs années, casquette de sous-officier de la Luftwaffe, croix gammée et signe nazi sur la tête. La photo est de mauvais goût, reconnaît le responsable du parti dans le Calvados, qui annonce à nos confrères de France Bleu le retrait de la candidature. On ne peut pas regarder les albums photos de tous les candidats, se désole un cadre du parti. Ce sera donc une circonscription en moins pour le Rassemblement National et une polémique en plus, quelques heures après la diffusion en ligne d'une vidéo concernant une autre candidate qualifiée pour le second tour. Nous sommes cette fois-ci en Mayenne. Paul Vert de Sora, c'est son nom, tente d'expliquer avec ses mots et beaucoup d'hésitation que son parti n'est pas raciste. Dans le Rassemblement National, nous avons des Juifs, des Musulmans et des Espagnols, avance-t-elle avant d'ajouter « J'ai comme ophtalmo un Juif et comme dentiste un Musulman ». Dans les deux cas, aucune réaction officielle du Rassemblement National qui multiplie les erreurs de casting depuis les européennes.
Pierrick Bonneau. En visite en Ukraine pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le Premier ministre hongrois est désormais président en exercice du Conseil de l'UE. Viktor Orban a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à envisager un cessez-le-feu, une déclaration qui illustre leur divergence ainsi que celle de Viktor Orban avec les autres dirigeants européens. Depuis le début de la guerre, le dirigeant nationaliste accusé d'être proche de Moscou tente régulièrement de bloquer l'aide militaire à l'Ukraine. Au lendemain du nouvel ordre d'évacuation de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, estime à 250 000 le nombre de personnes concernées. Des frappes israéliennes ont fait 8 morts et 30 blessés à Khan Younes et Rafah, annonce par ailleurs le Croissant Rouge palestinien ce matin.
Aux États-Unis, la Cour suprême donne un coup de pouce à Donald Trump.
La plus haute juridiction américaine a étendu hier l'immunité pénale présidentielle en estimant que le chef de l'État bénéficie d'une présomption d'immunité pour ses actes officiels. Les juges ont ensuite renvoyé l'affaire de l'assaut contre le Capitole devant un tribunal inférieur qui décidera quels actes peuvent être jugés ou non. Résultat, la décision de justice est encore retardée et elle a très peu de chances d'être prise avant l'élection de novembre. Une nouvelle accueillie diversement à Atlanta. Edouard Maille.
Gary Page surveille ses petits-enfants qui jouent dans la fontaine du parc public. Le conservateur se réjouit de cette décision. Il estime que les poursuites contre Donald Trump sont politiques et menées directement par Joe Biden.
Les démocrates et le président ont détourné des moyens contre l'ancien président. Le seul contre-pouvoir est la Cour suprême qui a dit « Waouh, vous allez trop loin ».
Une passante qui préfère rester anonyme se définit comme ni démocrate ni républicaine. Elle a été choquée par cette décision et les pouvoirs accordés au président.
Je me demande quelle est leur limite et à quel point on peut tricher avec la loi pour en profiter.
Robert Brooks, 55 ans, est un électeur indépendant. Pour lui, la décision de la Cour suprême peut présenter des risques en cas de victoire de Donald Trump.
Il devrait être traité comme n'importe quelle autre personne, peu importe. La seule conséquence, c'est lui faire comprendre qu'il pourra faire ce qu'il veut s'il est réélu, car il sait qu'il est intouchable et son ego était déjà assez important. Si vous ou moi nous avions fait ce qu'il a fait, on aurait été en prison 3 semaines plus tard.
Robert Brooks ne sait pas pour qui voter, entre Donald Trump, qu'il qualifie de gangster, et Joe Biden, qu'il juge trop vieux. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et Joe Biden a réagi à cette décision de la Cour suprême. Le président américain dénonce un dangereux précédent. Un scénario d'économie de guerre à Cuba. C'est en tout cas comme ça que Mildred Granadillo de la Torre, première vice-ministre de l'économie et de la planification, a expliqué l'annonce de nouvelles mesures de restriction budgétaire. L'objectif, réduire le déficit qui explose et ralentir l'inflation galopante. Les détails avec Myriam Berber.
L'inflation atteint plus de 30%, l'économie s'est contractée de 2% et le peso cubain s'est déprécié de plus de 50% face au dollar. Dans la rue, l'heure est au découragement, les pénuries alimentaires s'enchaînent et les produits de base sont épuisés, sans compter le manque de médicaments et les coupures d'électricité. Dans ce sombre contexte économique, le gouvernement cubain annonce une série de mesures, parmi lesquelles des contrôles des prix des produits alimentaires et une relance de la production agricole. Pour réduire les dépenses publiques, il annonce également une baisse du nombre des fonctionnaires ainsi que des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Le régime communiste pointe du doigt le renforcement des sanctions américaines comme la cause de toutes ces difficultés. Reste que le tourisme, principale source de devises de Cuba, n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie de Covid. L'an dernier, l'île a reçu près de 2 millions de visiteurs, alors qu'avant la pandémie, elle en accueillait près de 5 millions.
Et Myriam Berber pour RFI. Des vents à près de 270 km/h et des trombes d'eau. L'ouragan Beryl qui balaie en ce moment le sud-est des Antilles avec une force maximum a fait d'importants dégâts et au moins un mort dans l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines. Selon le dernier bulletin du Centre national américain des ouragans, il doit s'affaiblir dans la journée mais le danger demeure. Il devrait passer près de la Jamaïque demain et des îles Caïmans jeudi.
C'est un chiffre lourd de conséquences, le Brésil a enregistré près de 13 500 foyers d'incendie pendant les 6 premiers mois en Amazonie.
Et c'est le plus haut total recensé par le pays en 20 ans et les conditions climatiques ne sont pas seules en cause. Arthur Baudin.
Cette hausse, elle s'explique par une sécheresse historique dans la plus grande forêt tropicale de la planète. L'Amazonie a en effet manqué de précipitations. De ce fait, les foyers d'incendie ont augmenté de 62% par rapport à l'année dernière. Des incendies qui, selon Greenpeace, sont en grande majorité causés par l'homme. Au sud de l'Amazonie, le Pantanal, plus grande zone humide au monde, défait également de tristes records. Là non plus, les feux n'y sont pas spontanés. La ministre de l'Environnement Marina Silva l'assure, les feux sont dus à l'action humaine. Les éleveurs bovins sont fréquemment accusés de déclencher des incendies pour gagner des terres de pâturage. Les prochains mois seront longs pour le Brésil. Le pic des incendies est habituellement atteint entre août et septembre, au cœur de la saison sèche. Une situation délicate pour le gouvernement du président de gauche Lula, qui depuis le début de son mandat s'emploie à réduire la déforestation au Brésil. Déforestation qui a déjà baissé de plus de 40% par rapport à l'année 2023.
Arthur Baudin. Puis en football, il reste 2 billets à distribuer pour les quarts de finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Les Pays-Bas affrontent la Roumanie à 16h, temps universel. L'Autriche fera elle face à la Turquie à 19h TU. Hier, la France s'est qualifiée en battant la Belgique 1-0. Les Bleus qui affronteront le Portugal vendredi prochain. RFI 15h08 à Paris. RFI Midi continue avec Anne Cantner.
Merci Mayel de Charon. RFI Midi suite et fin. Nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Avec au programme Haïti et de nouvelles violences à Gressier, un accord migratoire entre la Colombie et le Panama, on en parlera dans quelques minutes. Mais d'abord, on va revenir sur la décision de la Cour suprême américaine, très contestée.
RFI Midi, Anne Cantner.
La Cour a étendu hier l'immunité présidentielle et Donald Trump a immédiatement salué une victoire. L'ancien président et candidat pour l'élection de novembre voit s'éloigner la perspective d'un procès fédéral où il devait être jugé pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, perdu face à Joe Biden, jugé aussi pour son rôle dans l'assaut du Capitole par ses partisans. Le jour où les parlementaires devaient entériner la victoire de Joe Biden le 6 janvier 2021. C'est notre dossier du jour. Bonjour Abla Jounaïdi.
Bonjour.
Il est désormais impossible ou presque que le procès de Donald Trump se tienne avant la présidentielle de novembre.
Oui, Anne, car la décision renvoie aux juridictions inférieures le soin d'examiner les responsabilités de l'ancien président dans les affaires pour lesquelles il est poursuivi. Par exemple, le procureur Jack Smith, en charge des deux plus graves affaires visant Trump que vous avez citées, va devoir revoir son acte d'accusation. Tenter de démontrer que lorsque Donald Trump a cherché à renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, par exemple, eh bien, il l'a fait comme candidat et non en tant que président. Et donc que ces faits ne sont pas couverts par l'immunité. Et cela risque de prendre des mois.
Et un des trois juges opposés à la décision d'hier a fait savoir très clairement son désaccord.
Pour Sonia Sotomayor, une des juges progressistes, ils sont en minorité à la Cour suprême, la décision met les présidents américains complètement à l'abri de toute responsabilité pénale. Et le camp démocrate est d'accord là-dessus. Écoutez le président Joe Biden.
Cette nation a été fondée sur le principe qu'il ne peut y avoir de roi en Amérique. Personne n'est au-dessus des lois, pas même le président des États-Unis. La décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle change cela fondamentalement. Seul le président fixera les limites.
Et sans surprise, le camp de Donald Trump, lui, balaye ses craintes qui sont jugées exagérées.
Oui, lors des débats à la Cour suprême, l'hypothèse avait été imaginée, Anne, de voir un jour un président faire exécuter un de ses opposants. Ces hypothèses, ce sont de pure fantaisie pour Mike Johnson, le speaker républicain de la Chambre des représentants, interrogé hier sur Fox News.
C'est de la folie. Souvenez-vous que le président et le vice-président sont les deux seuls postes élus par le peuple selon notre Constitution. Aucun élu à ce poste n'ira commettre des activités criminelles.
Pour le camp républicain, la décision de la Cour va surtout empêcher l'usage de la justice pour nuire à un adversaire politique. C'est leur argument de prédilection pour rejeter toutes les accusations visant Donald Trump. Si l'ancien président a désormais les coudées franches pour mener sa campagne, loin des tribunaux, c'est un coup dur pour les démocrates, nous explique Julien Toureille, chercheur à l'Université du Québec.
C'est évidemment pour les démocrates un souci dans la mesure où ils auraient certainement aimé que ces affaires de l'implication de Trump dans la tentative de renversement de l'élection de 2020 rappelle aux électeurs c'est quoi Trump finalement et le risque qu'il représente à la démocratie américaine. Et on sait que cet argument-là, c'est quand même l'un des principaux arguments sur lesquels les démocrates et Biden en particulier veulent miser pour remporter l'élection.
Voilà, un revers de plus dont les démocrates se seraient bien passés après la contre-performance de Joe Biden dans son débat face à Donald Trump.
Voilà, d'ailleurs, Joe Biden, vous nous l'avez dit, Abla a dénoncé cette décision. Il a parlé d'un dangereux précédent. Sur ce sujet, si vous voulez en savoir plus sur les conséquences judiciaires de cette immunité étendue, vous pouvez réécouter l'entretien que nous a accordé tout à l'heure la chercheuse Anne Desine, invitée internationale de RFI Midi ce mardi. L'entretien est déjà disponible sur l'appli RFI Pure Radio. Les États-Unis où se trouve le nouveau Premier ministre haïtien, Gary Conille, est en visite officielle à Washington. Et alors que la mission multinationale commence à se déployer à Port-au-Prince, il a plaidé pour le rétablissement de la sécurité et surtout demandé un soutien financier conséquent. La Banque interaméricaine de développement a déjà validé le décaissement de 40 millions de dollars pour les projets prioritaires. Et Gary Conille doit rencontrer tout à l'heure la chef du Fonds monétaire international. Pour en parler, il s'entretiendra aussi aujourd'hui avec le secrétaire d'État, Anthony Blinken.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
Et nous allons parler de l'actualité haïtienne maintenant, notamment de l'insécurité. Nous sommes en direct avec notre confrère Godson Pierre, comme chaque mardi. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Vous êtes le directeur de l'agence Alter Presse et vous revenez sur votre site sur de nouvelles violences commises par des gangs agressiers.
C'est la désolation à Grécy, à une trentaine de kilomètres au sud de Port-au-Prince. Plusieurs habitants auraient été abattus chez eux par les assaillants armés et de nombreux autres ont dû fuir. Un chauffeur de transport public a été tué par balle, puis son cadavre calciné. Tout cela s'est passé entre dimanche et lundi. Les gangs avaient à nouveau occupé le commissariat de cette ville avant sa reprise hier après-midi par la police. Une force conjointe de la police du Sud, du Sud-Est et des NIP a chassé les bandits qui avaient commencé à démolir le bâtiment. Aucun blessé du côté de la police qui ne précise pas si des bandits ont été tués.
Et puis ces nouvelles violences, Godson, elles faisaient suite à des changements annoncés au sein de la hiérarchie de la police.
Deux nouveaux directeurs départementaux ont été installés ces derniers jours dans l'Ouest, incluant la zone métropolitaine et des zones comme Gressier. Il y a également un nouveau commandant du groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Ces dispositions interviennent quelques jours après l'installation de Ramon Ormil en tant que directeur général de l'institution policière. Des travaux sont maintenant en cours en vue d'harmoniser les modes d'intervention de la police, de l'armée d'Haïti et des forces kényanes. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement.
Et puis Haïti attend le passage de l'ouragan Beryl, qui est jugé extrêmement dangereux par les services météo. Comment les habitants se préparent-ils, Godson ?
Eh bien, ici, la situation est suivie avec attention. Beryl risque de produire à partir de l'après-midi d'aujourd'hui des activités de pluie. Le temps est clair quand même à Port-au-Prince. Il y aura des rafales de vent, particulièrement sur le sud. Haïti est toujours en vigilance jaune. L'unité hydrométéorologique appelle les marins de voiliers ou de petites embarcations à la prudence, notamment au large, face à la mer qui sera agitée sur les côtes.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi. Et d'ici là, on peut vous lire sur alterpress.org. L'ouragan Beryl dont nous parlions menace toute la région. Une personne est décédée dans les Antilles, on le disait tout à l'heure. Et l'ouragan se dirige désormais vers la Jamaïque. Et la presse américaine y consacre plusieurs articles. Vous les avez lus pour nous, Antoine Gallen. Beryl se déplace et se renforce.
Oui, l'ouragan de catégorie 3 hier est désormais classé catégorie 5, la plus élevée. L'ouragan Beryl est le plus puissant à avoir frappé les îles du vent depuis 1974, rapporte le Washington Post. Ce matin, dans son bulletin météo, le Centre national américain des ouragans a précisé que les vents se renforçaient à près de 270 km/h. Il est toutefois prévu que l'ouragan s'affaiblisse plus tard, mais le danger n'en demeure pas moins. Les autorités ont conseillé aux habitants de rester chez eux. Après avoir dépassé la Jamaïque, l'ouragan Beryl pourrait toucher la péninsule du Yucatan au Mexique, au sud de Cancun, jeudi soir ou tôt vendredi. En temps normal, le phénomène El Niño aurait dû réduire le risque d'ouragan et le nombre de tempêtes au cours d'une saison. Mais le New York Times explique qu'en 2023, les températures élevées de l'océan Atlantique ont atténué cet effet habituel d'El Niño qui consiste à contrecarrer les tempêtes.
Haïti, Amérique et Afrique.
Dans l'actualité également, la volonté du président du Panama investi hier, José Raúl Mulino, a répété que son pays ne devait plus servir de transit pour les migrants en route vers les États-Unis.
Je ne permettrai pas que le Panama soit une voie ouverte pour des milliers de personnes qui entrent illégalement dans notre pays avec le soutien de toute une organisation internationale liée au trafic de drogue et au trafic d'êtres humains.
Et la presse du Panama revient sur ces mots du nouveau président Antoine.
Oui, pour la Estrella de Panama, cette décision promet un tournant dans la stratégie de fermeture de la frontière colombiano-panaméenne. Les deux pays sont divisés par la jungle du Darién, une jungle extrêmement dangereuse où opèrent de nombreuses bandes criminelles. En 2023, 520 000 migrants l'ont emprunté pour tenter de rejoindre les États-Unis. Plus de 200 000 depuis le début de l'année, en grande majorité des Vénézuéliens. Beaucoup sur la route sont victimes de raquettes, de viols, de travail forcé. Le journal panaméen rapporte que le président de droite, José Raúl Mulino, n'est pas disposé à continuer de financer le coût économique et social de ces migrations irrégulières. Il a rencontré dimanche le secrétaire américain de la sécurité intérieure avec qui il a signé un accord lundi. Il s'engage à rapatrier à la frontière colombienne les migrants passés par le Darién qui n'ont pas de base légale pour rester au Panama. Le gouvernement américain s'engage à couvrir le coût de ces rapatriements, précise la Prensa.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a annoncé la reprise des négociations avec les États-Unis, malgré les sanctions de Washington contre le secteur pétrolier et à un mois de l'élection présidentielle.
Depuis deux mois, j'ai reçu une proposition du gouvernement des États-Unis pour rétablir les conversations et le dialogue direct. Après y avoir réfléchi pendant deux mois, j'ai accepté. Mercredi prochain, les conversations avec le gouvernement des États-Unis reprendront afin de respecter les accords signés au Qatar et rétablir les termes du dialogue dans le respect, sans manipulation. Je veux du dialogue, je veux de la compréhension, je veux un avenir pour nos relations, je veux du changement, bien sûr, dans le cadre de la souveraineté et le respect de l'indépendance absolue du Venezuela. Le Venezuela doit être respecté.
Bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela. A Venezuela la tienen que respetar.
Déclaration de Nicolas Maduro à un mois de l'élection présidentielle au Venezuela. Et bien sûr, Antoine, cette annonce, cette reprise des discussions est commentée aujourd'hui dans la presse vénézuélienne.
Oui, El Nacional parle de reprise de négociations après des hauts et des bas. Dans sa prise de parole, Nicolas Maduro mentionne les accords signés au Qatar l'année dernière, ces négociations secrètes lors desquelles les deux pays se sont mis d'accord sur un échange de prisonniers. Washington a libéré Alex Saab, accusé d'être un homme de paille de Nicolas Maduro contre la libération de 28 personnes, 10 Américains et 18 Vénézuéliens emprisonnés au Venezuela. Les États-Unis ont aussi allégé l'embargo pétrolier imposé au pays depuis 2019 après la réélection controversée du président Maduro qui n'a pas été reconnu par une partie de la communauté internationale. Une reprise du dialogue saluée dans un tweet par le président colombien Gustavo Petro. La Colombie, acteur clé de la médiation entre Washington et Caracas, rappelle El Espectador.
Et puis direction l'Argentine où le gouvernement officialise la fermeture de l'agence de presse nationale TELAM.
Le président Javier Milei continue sa casse du service public. TELAM cessera d'opérer comme elle le fait depuis sa création dans les activités de service journalistique et en tant qu'agence de presse, indique le bulletin officiel publié lundi. Página 12 précise qu'elle sera transformée en agence de publicité. Fondée en 1945 par l'ancien président Juan Domingo Perón, alors secrétaire au travail et à la sécurité sociale, l'agence TELAM employait 700 personnes et diffusait chaque jour environ 500 dépêches d'actualité nationale, 200 photos ainsi que des contenus vidéo et radio. Javier Milei avançait que l'agence avait été utilisée durant les dernières décennies comme une agence de propagande kirchneriste, du nom de l'ancienne présidente argentine de gauche, Cristina Kirchner.
La revue de presse signée Antoine Galen à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi.
Et on va parler maintenant de l'actualité des Outre-mer avec nos confrères de La Première. On vous retrouve, Tiziana Marron. Après avoir frappé de plein fouet les îles Grenadines, l'ouragan Beryl se dirige désormais vers la Jamaïque, on le disait il y a quelques minutes, et il s'éloigne des Antilles.
Oui Anne, il s'agit d'un cyclone hors norme de catégorie 5 avec des vents atteignant les 270 km/h en Martinique dans l'après-midi d'hier. La houle a occasionné de gros dégâts sur les routes du côté de Sainte-Luce et du Diamant dans le sud de l'île. En soirée, la mer démontée avec des creux allant de 2 à plus de 5 mètres a frappé très fort sur la côte, du jamais vu selon Jean-Paul Moïse, président du centre nautique de Saint-Pierre. Il est au micro de Manuel Larade de Martinique La Première.
Moi j'ai fait de la voile depuis petit ici et ça fait 12 ans que j'ai le sap nautique avec mon équipe et je n'avais jamais imaginé que l'eau serait arrivée au niveau de la route avec cette force. Et malheureusement nous avons quelques embarcations qui sont cassées, 2 ou 4 et puis 4 avions que nous avions mis chez quelqu'un en hauteur. Mais vraiment la mer est démontée, c'est exceptionnel, hein. Il y a beaucoup de dégâts.
Et les pluies torrentielles ainsi que des conditions de mer inhabituelles ont causé des inondations à Fort-de-France. Ce matin, le front de mer est encore impraticable. En Guadeloupe, l'administration pénitentiaire de Bémao, dans le collimateur de la justice, dans son ordonnance du 27 juin dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe acte les conditions indignes de la prison et enjoint l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le quotidien des détenus. Les précisions au micro de Guadeloupe La Première, d'Antoine Lescolon, avocat de la section locale de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, à l'origine de la requête.
On a 126 personnes aujourd'hui qui dorment sur des matelas par terre, dans des cellules standards qui font à peu près 8,6 mètres carrés. Quand on enlève la surface mobilière et la salle d'eau, selon une juge des libertés de la détention qui a été interrogée sur ce point-là dans cette procédure-là, on arrive à un espace vital par personne de moins de 1 mètre carré. Donc ça, selon les normes de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est automatique, on a une violation des droits fondamentaux des détenus, et donc sur ce point-là, ils ne pouvaient que être d'accord. Alors nous, on va contrôler, savoir comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place, mais notamment, ils demandent à ce que l'administration prennent toutes les mesures pour compenser l'indignité des détenus qui dorment par terre. Donc on va voir comment ça se traduit. Ça va être compliqué pour l'administration de mettre en place quelque chose, mais on espère qu'ils vont faire preuve d'originalité. Et nous, dans tous les cas, on va être là derrière pour s'assurer que ce soit efficace.
En Guyane, en bref, le retour à la normale progressif à Saint-Georges-de-l'Oyapock. La commune du sud du territoire a subi un blackout généralisé tout le week-end. Pas d'électricité, pas d'eau non plus. La pompe étant alimentée à l'énergie électrique, les deux pannes sur le réseau ont été identifiées. Selon EDF, ce mardi, il ne reste plus qu'une centaine de foyers à alimenter en électricité. Et c'est la fin de cette édition. À demain.
À demain, Tiziana Maron. Vous nous parliez tout à l'heure de l'ouragan Beryl. Eh bien, le chef de l'ONU Climat s'exprime aujourd'hui sur ce phénomène. Et voilà ce qu'il dit. La crise climatique pousse les catastrophes à de nouveaux niveaux records de destruction. Et selon lui, sa famille, au chef de l'ONU Climat, fait partie des victimes de l'ouragan Beryl qui a dévasté son île natale de Cariacou dans les Grenadines.
Ok. Quiero un caballito, pero con cuatro aros. Haciendo cuero que se robe el show donde los paro. El motor potente que corra cuando yo quiero. 400 caballos de fuerza y yo ser su vaquero. Va a montarlo en la mañana y en la noche. Cuando salimos de party, te teteo con el ponche. Hasta las 15 hoy cargamos oro sólido. Si te pasas del liso, portada en el periódico. Por la mañana un remate bien exótico. Hoy quiero un caballito, pa' montarlo. Un caballito, a montarlo cuando quiero.
Tu caballito, tu caballito, tu caballito, pa' que me monte cuando quiera.
Caballito, le titre des Colombiens Fariana et Oro à écouter pour nous accompagner jusqu'à la fin d'RFI Midi, jusqu'à 13h30, temps universel.
De esa jinete, una abusadora que tiene todo el paquete. Anda en tanguita roja y posee todo el billete. Desde que ella llegó, le dije María, vete.
Un caballito, a montarlo cuando quiero.
Tu caballito, tu caballito, tu caballito, pa' que me monte cuando quiera.
Ok. Ahora viene la única artista que toca hasta las 15 de la mañana. Enseñar el paso al caballito. Se fue al paso,
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 al trote,
al trote,
al trote,
al trote,
al trote,
al trote,
al trote, galopea, 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 y patea, y patea, y patea.
El baile caballito es el baile tracata. Es el baile tracata, 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 tracata.
Voilà, Fariana et Oro El Caballito pour terminer RFI Midi. Aux manettes ce mardi, Yann Eligouin. Je vous donne rendez-vous demain, 11h, temps universel, pour une prochaine édition d'RFI Midi. Toute l'actualité à la mi-journée, mais vous restez sur RFI puisque dans un peu plus d'une minute maintenant, vous retrouverez Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix avec son invité, le metteur en scène et acteur Patrice Thibault, qui nous parlera de son nouveau spectacle. Un spectacle burlesque au service du sport. Très bonne journée à tous.
Una abusadora que tiene todo el paquete. Anda en tanguita roja y posee.
aceptó el billete. Desde que ella llegó, le dije: María, vete.
Un caballito, caballito, a montarlo cuando quiero.
Tu caballito, tu caballito, tu caballito, porque me monte cuando quiera.
Portrait libre sur RFI.fr.
Johan Piémont est un danseur et chorégraphe réunionnais de 28 ans. Sur scène, son alter ego s'appelle Luna et c'est avec elle qu'il a ramené depuis quelques années le voguing et l'esprit des balls à La Réunion, rendant hommage à cette contre-culture queer née aux États-Unis. Luna, danseuse et chorégraphe, pionnière de la culture ballroom à La Réunion, un portrait libre à découvrir sur RFI.fr et l'application de RFI.